Les grands titres de ce mardi 29 novembre. En Australie, les rumeurs courent comme quoi Malcolm Turnbull remanierait son cabinet dans les prochains jours. Le gouvernement va tenter ce soir de faire passer une loi pour amener la commission sur l'industrie de la construction. Et à Cuba, on rend hommage au leader décédé, Fidel Castro. Comme on vous disait en grand titre, les rumeurs se font de plus en plus insistantes comme quoi le premier ministre remanierait son cabinet vendredi. Mais Malcolm Turnbull ne veut rien confirmer pour l'instant.
I have an excellent ministry. I'm delighted with the hard work my colleagues are undertaking, and it is measured in results. And the results are building up. We are delivering.
Le premier ministre Malcolm Turnbull. Le leader de l'opposition, Bill Shorten, a demandé au premier ministre de renvoyer le procureur général. George Brandis est au centre d'une controverse sur la façon dont il a géré le cas de la liquidation du groupe Bell. Le Parti travailliste l'accuse de corruption. Il s'est expliqué devant le Parlement hier à propos de l'entente qu'il aurait conclue pour redistribuer près d'un milliard de dollars du groupe Bell à l'Australie occidentale. Bill Shorten croit que le sénateur Brandis ne sera pas de retour l'an prochain.
I don't think it's a matter of if the worst Attorney General in Australia resigns. I just think it's a matter of when. I don't think that Malcolm Turnbull's got the guts to sack the most accident-prone and incompetent minister in an accident-prone and incompetent government whilst Parliament sits. But as soon as the Christmas turkey goes in the oven, George Brandis will be cooked.
Le leader de l'opposition, Bill Shorten. Le Sénat devra siéger très tard ce soir puisque le gouvernement va tenter de faire passer une loi pour ramener la commission sur l'industrie de la construction. Il a déjà passé une partie de la nuit dernière à débattre sur le sujet et il pourra siéger jusqu'à minuit ce soir. Le débat était assez agité, la nouvelle sénatrice travailliste Kimberly Kitching comparant le premier ministre Malcolm Turnbull à l'ex-leader cubain Fidel Castro. Le Parti travailliste croit que la commission traiterait les travailleurs de la construction comme des criminels. Mais la ministre de l'Emploi, Michaëlia Cash, insiste qu'il est nécessaire pour protéger les travailleurs d'avoir cette commission.
We need to ensure that they are provided with a work environment that is cooperative, productive, and just as importantly, where the rule of law applies.
Le gouvernement a déjà le support de ses 30 sénateurs, des 4 sénateurs de One Nation et de David Lionhelm. Il négocie actuellement pour avoir les votes de la Nick Xenophon Team et celui du sénateur Darren Hinch. Il lui faut absolument ces 4 votes pour faire passer cette loi. Les travailleurs et les Verts s'opposent à la législation, c'est pourquoi le gouvernement a tant besoin de ces 4 votes. Le porte-parole de l'opposition en matière d'emploi, Brendan O'Connor, a dit à Sky News que ce n'était pas certain que la législation allait passer.
There are some very significant amendments that will be moved by the opposition and moved by the Greens, as I understand it, and moved by crossbenchers. And I think some of those amendments that I'm aware of will not be accepted by the government. You think of that. If they can't accept these amendments and they pass the Senate, then this matter is not resolved.
Le porte-parole de l'opposition en matière d'emploi, Brendan O'Connor. On rapporte que la sécurité de l'édifice du Parlement sera resserrée puisque les autorités s'inquiètent que l'édifice soit vulnérable aux attaques. Les changements incluraient des barrières de sécurité dans les zones ouvertes au public, des clôtures autour de l'entrée du Sénat et de la Chambre des représentants, moins d'entrées piétonnières et plus de policiers armés. Le ministre de l'Immigration, Peter Dutton, a dit que de restreindre l'accès du public au Parlement serait un choix difficile.
We've seen what happened in 9/11, we've seen what's happened in Sydney, in France, in Canada, in their parliament, and it means that they have to take the advice and act on it because they've got responsibility not only for the MPs here, but for the thousands of staff and visitors to Parliament House.
Le ministre de l'Immigration, Peter Dutton. Le djihadiste le plus connu d'Australie, Neil Prakash, qu'on croyait mort dans un bombardement à Mossoul en mai dernier, est en fait vivant. Celui qui serait un recruteur du groupe État islamique a survécu et serait dans une prison turque. Les explications de Christophe Pagé.
C'est le New York Times qui le premier a estimé jeudi dernier que Neil Prakash était toujours vivant, qu'il avait certes été blessé lors du bombardement de Mossoul il y a un an et demi, mais qu'il avait survécu. Canberra a alors embrayé samedi en annonçant l'arrestation par les autorités turques d'un individu que nous pensons être Neil Prakash. L'homme était entré en Turquie par la frontière syrienne, voyageait avec de faux papiers et tentait de se rendre en Irak. Au moment de sa mort supposée, Neil Prakash était considéré par le Premier ministre Malcolm Turnbull comme le principal agent australien de l'organisation État islamique. Ce bouddhiste originaire du Cambodge et des îles Fidji, converti à l'islam en 2012, est apparu dans plusieurs vidéos de propagande de l'EI. Il aurait été, selon Canberra, un recruteur de première catégorie, membre d'une cellule anglophone chargée de radicaliser des Occidentaux sur Internet et les encourager à mener des attaques. C'est à ce titre qu'il figurait, selon le New York Times, sur une liste de cibles pour les drones américains en Irak. Canberra estime que Neil Prakash est lié à un Australien de 18 ans, tué après avoir poignardé deux policiers à Melbourne en 2014 et à un projet manqué de décapitation d'un policier, toujours à Melbourne, en 2015. Le gouvernement australien a demandé son extradition à la Turquie.
Christophe Pagé pour RFI. Aux États-Unis, la dernière attaque sur un campus universitaire pourrait être en lien avec le terrorisme. 8 personnes ont été blessées, dont une gravement, à l'université Ohio State à Columbus. L'assaillant présumé a été tué par un policier. Le président de Ohio State University, Michael Drake, a expliqué que l'assaillant a d'abord abouti des piétons avec un véhicule, mais qu'il a été tué rapidement.
A vehicle drove across the curb and into pedestrians who were on the sidewalk. It seems that this was purposeful. It was not hitting people in a crosswalk or something. It really was driving onto a sidewalk. After he drove into the crowd, I should say, he got out of the car with a sharp instrument and began to stab or cut at people. And one of our officers then arrived immediately on the scene and encountered the suspect who, I'm told, failed to respond to commands and then was shot.
Le président de Ohio State University, Michael Drake. Des Cubains sont réunis à Place de la Révolution à La Havane pour un hommage à Fidel Castro qui durera toute la semaine. Des leaders de partout dans le monde devraient assister à une cérémonie en son honneur mardi. Des leaders de plusieurs pays ont toutefois choisi de ne pas assister à l'hommage au controversé leader. Toutes ces cérémonies vont s'achever dimanche avec les funérailles de Fidel Castro à Santiago de Cuba. Romana Frachon de RFI était sur place et a recueilli le témoignage de Cubains qui se disent révolutionnaires.
Tout d'abord, ma femme et moi, cela fait 2 heures qu'on fait la queue ici. Si on devait rester des jours entiers ici pour pouvoir rendre hommage à notre commandant, on le ferait. Pour ce qui est de l'importance que cela revêt, imaginez que lorsque nous étions jeunes, nous l'avons vu entrer à La Havane lorsqu'est arrivée la caravane de la liberté. Aujourd'hui, nous voulons lui dire au revoir alors qu'il part dans un endroit où il sera reçu comme un héros afin de reposer en paix. C'est de cette manière que nous voulons lui rendre hommage. Nous sommes obligés de le faire en tant que Cubains, en tant que révolutionnaires. Lorsque la caravane qui transportera ses cendres s'en ira, nous lui dirons encore une fois au revoir.
En tant que révolutionnaire, je suis très attristée de la perte de notre commandant, de notre petit vieux, comme je l'ai surnommé depuis mon enfance. J'ai tant de choses à dire, mais je n'y arrive plus. J'ai tant de belles choses à dire le concernant. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici depuis notre enfance. Cela fait 56 ans que nous sommes mariés et nous avons toujours lutté en faveur de la révolution. Et nous l'avons fait toujours en pensant à lui, toujours.
Pendant ce temps, le président élu américain Donald Trump menace sur Twitter de mettre fin au rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. Les précisions d'Anne-Marie Capomaccio.
Le jour où le premier vol commercial fait la liaison Miami-La Havane, Donald Trump donne les grandes lignes de sa future politique cubaine par tweet. « Je tuerai l'accord », écrit le président élu, « si les Américains et les Cubains n'en retirent pas assez de contrepartie ». Avec cette menace à peine voilée, Donald Trump semble céder à l'aile dure du Parti républicain, une minorité frustrée d'avoir été prise au dépourvu en découvrant l'accord secret scellé voilà 2 ans par Barack Obama. Cette aile républicaine est certes en totale déconnexion avec l'opinion publique, mais elle fait déjà pression sur le président élu. Les parlementaires d'origine cubaine exigent de Donald Trump qu'il se montre ferme envers La Havane et le milliardaire leur donne un gage. Le futur locataire de la Maison-Blanche aura le pouvoir de revenir sur les décrets de Barack Obama qui ont permis l'assouplissement de l'embargo sur les voyages et le commerce notamment. Mais rien ne dit que Donald Trump mettra sa menace à exécution. Durant la campagne, le milliardaire avait exclu l'idée d'une fermeture des ambassades. Un tweet de 140 signes reste assez vague pour semer le doute sans s'engager précisément.
Anne-Marie Capomaccio pour RFI. En Syrie, des milliers de résidents d'Alep se sont enfuis de l'est de la ville alors que des forces du président Bachar al-Assad ont capturé une partie de la ville qui était contrôlée par des forces rebelles. Capturer l'est d'Alep serait la plus grande victoire de Bachar al-Assad depuis le début du soulèvement contre lui en 2011. L'état de la situation avec Paul Alifa.
L'effondrement dramatique des rebelles a permis à l'armée syrienne et ses alliés de reprendre 12 quartiers d'Alep Est en moins de 24 heures. Les troupes gouvernementales contrôlent désormais 40% de la partie orientale de la ville, soit 20 km², selon des experts ici à Beyrouth. Les rebelles se sont repliés dans le désordre vers le sud-est, où ils défendent encore une zone de 45 km² qui comprend une partie de la vieille ville. Les habitants continuent de fuir par famille entière vers les secteurs gouvernementaux à l'ouest ou vers le quartier de Sheikh Maksoud qui est aux mains de milices kurdes au nord. Le Croissant Rouge syrien a annoncé que 4000 civils avaient pu rejoindre la partie gouvernementale d'Alep ce lundi. Courant dans des rues désertes, jonchées de gravats et parfois balayées par des tirs de snipers, des femmes, des enfants et des personnes âgées sont accueillis par des secouristes ou des militaires syriens. Ils sont momentanément installés dans des écoles ou des terrains de sport. Plus de 10 000 civils ont pu quitter les quartiers rebelles depuis dimanche soir, mais des dizaines de milliers d'autres sont toujours pris au milieu des combats qui se poursuivent avec violence.
Paul Alifet pour RFI. Avant de passer au sport, on jette un coup d'œil sur la météo en Australie. Ça se réchauffe tranquillement, on sent l'été qui arrive. À Perth, un maximum de 28 aujourd'hui, Adélaïde 31, Melbourne 21, Hobart 18, Canberra 26, Wollongong 22, Sydney et Newcastle 24 degrés, Brisbane 30 et à Cairns et Darwin, c'est 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 29 novembre. En Australie, les rumeurs courent comme quoi Malcolm Turnbull remanierait son cabinet dans les prochains jours. Le gouvernement va tenter de faire passer une loi pour amener la commission sur l'industrie de la construction ce soir. Et à Cuba, on rend hommage au leader décédé, Fidel Castro.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.